Washington, la voix du soir à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 28 août 2014. Bagassi Koura et Morgan Guiriec pour ce journal en direct de Washington. Bonsoir Morgan.
Bonsoir Bagassi. Bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, plus de 1500 personnes tuées par l'Ebola en Afrique de l'Ouest, selon le dernier bilan de l'OMS.
L'épidémie bouge d'une manière qui est non linéaire et peut croiser une frontière et revenir. C'est-à-dire que tant que les trois pays n'ont pas contrôlé de manière simultanée l'épidémie, il n'est pas résolu.
Accusé d'être lié à un trafic présumé de bébés, le président du Parlement du Niger, Ama Amadou, a fui au Burkina Faso.
Il n'a pas confiance au système judiciaire. Et par le passé, et il est habitué, à chaque fois qu'il a un problème devant le juge, il est habitué à traverser la frontière pour se réfugier.
L'armée camerounaise a bombardé hier une position des militants islamistes de Boko Haram dans la ville nigérienne de Gamboru.
L'Ukraine affirme que des troupes russes ont pris le contrôle de Novoavtsovsk, une ville frontalière dans le sud-est du pays.
Et puis l'État islamique a exécuté 160 soldats syriens dans une zone sous leur contrôle.
Et comme toujours en fin d'émission, nos pages sport et musique. Pour l'instant, le journal.
Plus de 1500 personnes tuées par l'Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est le dernier bilan de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alors que les ministres de la santé de la région sont en réunion de crise à Accra. Le point avec Lionel Gaïman.
L'Organisation mondiale de la santé a dénombré 3069 cas d'Ebola et 1552 décès en Afrique de l'Ouest. Le Libéria, pays plus touché, compte 1378 cas et près de 700 décès. Le Nigeria a annoncé un sixième mort à Port Harcourt, dans le sud-est du pays. C'est le premier décès hors de Lagos qui fait craindre des risques de propagation de l'épidémie. À terme, l'OMS attend plus de 20 000 cas de fièvre Ebola, mais espère stopper la progression du virus dans quelques mois. Mais MSF estime que la réponse internationale est dangereusement inadaptée et le Programme alimentaire mondial affirme que tenter d'arrêter l'épidémie revient à plonger au milieu d'un tsunami. Selon l'association humanitaire Wellcome Trust, des essais de vaccins contre l'Ebola vont être menés de manière accélérée à partir du mois de septembre sur des volontaires sains au Royaume-Uni, en Gambie et au Mali.
L'armée camerounaise a bombardé hier une position des militants islamistes de Boko Haram dans la ville nigériane de Gamboru, près de la frontière. C'est ce que rapporte l'AFP en citant des sources sécuritaires camerounaises. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Des chars positionnés près de la ville camerounaise de Fotokol ont bombardé un camp de Boko Haram situé de l'autre côté de la frontière, a expliqué un policier camerounais, ajoutant que plusieurs combattants islamistes ont été touchés, mais tous n'ont pas été neutralisés. La même source précise que les militants contrôlent toujours Gamboru. Le calme est revenu à Fotokol hier nuit. La ville de Gamboru semblait pour sa part avoir été désertée par ses habitants. Des milliers de civils qui avaient fui les combats dans leur pays se trouvaient à Fotokol, tout comme des militaires nigérians qui ont franchi la frontière après avoir tenté en vain de repousser les assaillants. L'armée camerounaise a annoncé cette semaine avoir tué 27 militants de Boko Haram qui avaient attaqué une zone camerounaise où s'étaient retirés près de 500 soldats nigérians. Le gouvernement nigérian a rejeté les allégations de désertion, soutenant que ces soldats avaient plutôt opéré un repli stratégique.
Voilà, le président du Parlement du Niger a fui son pays pour le Burkina Faso, accusé d'être lié à un trafic présumé de bébés. Amadou devait s'expliquer devant la justice, mais d'après son avocat cité par l'agence France-Presse, cette affaire n'est pas à l'origine de son départ. Principal opposant au président Mahamadou Issoufou, Amadou se sentait menacé par l'État, a-t-il souligné dans la partie magazine de cette édition. Nous reviendrons avec Moussa Asghar, rédacteur en chef du journal L'Événement, sur le cas du président du Parlement du Niger.
Le président français, François Hollande, appelle les Nations Unies à fournir un soutien exceptionnel pour la Libye afin d'aider les autorités à rétablir l'ordre dans un pays qui a été fracturé par les milices et les querelles politiques. Sarah Diaby.
S'exprimant à Paris, M. Hollande a dit que l'inaction de la communauté internationale en Libye pourrait conduire à la propagation du terrorisme. Ces remarques suivent celles hier du représentant spécial de l'ONU pour la Libye, Tarek Mitri, qui a averti le Conseil de sécurité que la situation en Libye pourrait se transformer en une guerre civile à part entière.
The threat from the spread of terrorist groups has become real.
La menace de la propagation des groupes terroristes est devenue réelle. Leur présence et leur activité dans un certain nombre de villes libyennes sont connues de tous. À l'heure actuelle, la situation sécuritaire chaotique et la capacité très limitée du gouvernement pourraient bien avoir créé un terrain fertile pour ces groupes.
For a mounting danger in Libya and beyond.
La Libye est plongée dans la crise et l'insécurité depuis la mort du colonel Muammar Kadhafi en 2011.
Voilà, Soudan du Sud, les Nations Unies suspendent tous leurs vols vers Bentiu, une mesure prise après qu'un hélicoptère de l'ONU a été abattu mardi dans le pays. Les hélicoptères sont indispensables au ravitaillement des bases des Nations Unies, dans lesquelles près de 100 000 personnes ont trouvé refuge à travers le Soudan du Sud. Une enquête est en cours et l'ONU affirme être en possession de la boîte noire, sans préciser qui de l'armée gouvernementale ou des forces rebelles est à l'origine des tirs.
Ici aux États-Unis, dans la banlieue de Washington, l'ambassadeur de la Guinée équatoriale est soupçonné d'avoir battu sa fille. D'après la police, l'adolescente a notamment subi une importante blessure à la tête. Son père ne sera pourtant pas arrêté car il bénéficie de l'immunité diplomatique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà, il est 18h37 en temps universel. L'actualité dans le reste du monde. L'Ukraine affirme que des troupes russes ont pris le contrôle de Novoazovsk, une ville frontalière clé dans le sud-est du pays. Et Kiev a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour discuter de la crise. Les précisions avec vous, Claire Morin-Gibourg.
Selon le Conseil ukrainien de sécurité et de défense, Novoazovsk est encerclé par les blindés russes. Il ajoute que plusieurs villages voisins sont également tombés aux mains des Russes. Le président Petro Poroshenko a du coup annulé une visite en Turquie et a convoqué une réunion d'urgence. Il a déclaré que la situation se dégradait rapidement dans la région de Donetsk et que les troupes russes sont entrées en Ukraine. Son ambassadeur à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a carrément accusé Moscou d'invasion directe de son pays. Les membres de l'OSCE sont réunis à Vienne pour des discussions spéciales sur ces derniers développements. Mais l'ambassadeur russe à la même organisation, Andrei Kelin, dément toute présence russe en Ukraine. Pour sa part, la mission américaine à l'OSCE a dit sur Twitter que les violations russes en Ukraine domineront les débats à Vienne. De son côté, des officiels de l'OTAN ont dit avoir évalué à plus de 1000 le nombre de soldats russes qui appuient les séparatistes ou se battent à leur côté. Pour le général Niko Tak, chef du centre de crise de l'Alliance, la présence d'armes ultramodernes et de troupes russes sur le terrain rend la situation plus grave encore. Le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a demandé à l'Union européenne et aux États-Unis de renforcer les sanctions contre la Russie jusqu'à ce qu'elle retire ses troupes et les armes du pays.
Selon le département d'État américain, la Russie a envoyé davantage de moyens militaires dans l'est de l'Ukraine, ce qui indique qu'une contre-offensive dirigée par la Russie est vraisemblablement en cours près de deux importantes villes frontalières tenues par les rebelles. Parmi ces moyens, a dit la porte-parole Jen Psaki, des chars et lance-roquettes. Elle a cité des informations selon lesquelles les séparatistes bombardaient les zones résidentielles de la ville portuaire de Mariupol. Jen Psaki a également signalé des combats violents à l'aéroport de Donetsk. Les officiels ukrainiens et les responsables militaires occidentaux qualifient l'incursion d'invasion déguisée. Selon des dépêches du New York Times en provenance de l'est de l'Ukraine, des blindés, pièces d'artillerie et des éléments d'infanterie ont traversé la frontière russe ces derniers jours à Novoavtsk. Le Times ajoute que cette incursion a provoqué une retraite des forces ukrainiennes et semé la panique à travers un vaste secteur de cette partie russophone de l'Est ukrainien.
Et puis pour être complet sur ces sujets, ajoutons que les États-Unis vont envoyer des chars et des soldats en Europe de l'Est pour tenter de rassurer leurs alliés de l'OTAN qui s'inquiètent de l'incursion de la Russie en Ukraine.
Dans le nord de la Syrie, l'État islamique a exécuté 160 soldats syriens dans la province de Raqqa, une zone qu'il contrôle. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces soldats avaient été capturés lors de précédents assauts. L'organisation basée à Londres indique aussi que plusieurs chefs de l'État islamique ont été tués par des bombardements syriens près de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Par ailleurs, à Damas, des habitants ont signalé à l'AFP d'intenses combats opposant l'armée aux rebelles.
Et en Irak, où les djihadistes de l'État islamique contrôlent une grande partie du territoire, les États-Unis envisagent de venir au secours d'Amerli, une ville peuplée majoritairement de turcomans chiites, assiégée depuis plus de 2 mois par les djihadistes, selon un haut responsable du Pentagone cité par l'agence France-Presse. L'intervention pourrait prendre la forme de largage humanitaire et ou de frappe contre les insurgés.
En Égypte, le groupe djihadiste Ansar Beit al-Maqdes, qui se dit lié à Al-Qaïda, a revendiqué la décapitation dans le Sinaï égyptien de 4 hommes qu'il accusait d'avoir collaboré avec Israël. Les corps de 4 hommes avaient été découverts la semaine dernière dans le nord de la péninsule du Sinaï.
Et puis selon l'AFP, le chef du mouvement islamique islamiste palestinien Hamas, Khaled Mekala, a rejeté toute tentative qui viserait à désarmer ses combattants dans la bande de Gaza. Ce désarmement du groupe palestinien est l'une des exigences d'Israël en vue d'une trêve à long terme. Un cessez-le-feu est observé depuis mardi entre Israël et les islamistes palestiniens après 50 jours d'une guerre qui a fait plus de 2140 morts et 11 000 blessés parmi les Gazaouis et 70 côté israélien. Voilà, c'est tout pour le journal au micro Bagasikoura et Morgan Guirec en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la voix de l'Amérique. Voilà, on enchaîne sur la partie magazine de cette édition. On commence par l'actualité au Niger. L'actualité donc là-bas qui est dominée par la fuite du chef des députés nigériens. L'opposant Amadou qui s'est réfugié au Burkina Faso. Le camp d'Amadou dénonce avec fracas une utilisation de la justice à but politique par le président Mahamadou Issoufou qu'il a aidé à accéder au pouvoir en avril 2011. Hier, l'Assemblée nationale a autorisé la justice à l'entendre et aujourd'hui, on apprend que son immunité a été levée. Tout ça est lié à cette affaire de trafic de bébés en provenance du Nigeria. Pour plus de détails, nous avons joint celui qui avait, il y a 10 mois, révélé cette affaire. Il s'agit de Moussa Askar. Il est directeur des rédactions du journal L'Événement.
Le Nigérien était désabusé en apprenant par les ondes et à travers certains SMS que le président de l'Assemblée nationale a pris la route d'escampette pour se retrouver au Burkina Faso. Au moment où le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de le mettre à la disposition du juge pour qu'il réponde de ses actes relativement à l'affaire des bébés importés du Nigeria.
Et pourquoi est-ce qu'il a fui? Parce qu'il n'a pas confiance au système judiciaire?
Oui, d'abord il n'a pas, il y a cette hypothèse, il n'a pas confiance au système judiciaire. Et par le passé, et il est habitué, à chaque fois qu'il a un problème devant le juge, il est habitué à traverser la frontière pour se réfugier.
Donc ce n'est pas la première fois, hein?
Oui, ce n'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs cas et il s'est toujours retrouvé, il a toujours pris la fuite dès qu'il a un problème avec la justice de son pays. Donc ça n'a pas surpris certains. Et il y a bien avant, depuis le début de cette affaire, beaucoup pensaient à ce qu'il quitte clandestinement le pays pour qu'il ne réponde pas de ses actes devant le juge.
Mais revenons sur l'affaire même. De quoi s'agit-il concrètement?
Bon, cette affaire, c'est nous qui l'avons révélé. Il y a de cela une dizaine de mois. Nous avons reçu une information qu'un policier, un inspecteur de police, dont la femme est monopause, est atteinte de monopause, elle n'allait pas avoir des enfants, elle a pu aller au Nigeria et acquérir des bébés. Nous avons fouillé et nous sommes déplacés dans ce pays-là. Nous sommes revenus faire des articles pour alerter l'opinion nationale et internationale qu'il y a un vaste trafic de bébés dans ce pays au Nigeria.
En dehors donc du cas de Ama Amadou, qui sont les autres concernés?
Vous avez des directeurs de banque, des hommes de porteurs de tenue, des policiers. Vous avez même aujourd'hui la femme d'un haut commandant de la garde nationale qui a été auditionné par les services compétents. Donc c'est plusieurs personnes qui sont impliquées dans ce trafic-là, et notamment au Niger, au Bénin où il y a eu des arrestations, et également au Burkina.
Voilà, c'était Moussa Askar, directeur de rédaction du journal L'Événement, que j'ai joint à Niamey.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Épidémie d'Ebola, réunion de crise des ministres de la Santé d'Afrique de l'Ouest à Accra. Le bilan de l'épidémie qui frappe la région a dépassé 1500 morts d'après le dernier bilan de l'OMS. L'organisation dit s'attendre à terme à plus de 20 000 cas de fièvre Ebola dans la région. Georges Castilla est coordonnateur médical de la commission d'aide humanitaire de l'Union européenne. Il vient de boucler une tournée dans les pays touchés.
J'ai découvert que la situation n'est pas bonne du tout, dans le sens que les services d'hospitalisation sont débordés. Cela veut dire qu'on est allé au-delà d'avoir des patients dont on ne connaît pas la localisation et qui sont en train de participer à l'extension de la maladie, mais en fait qu'il y a des patients qu'on connaît, mais dont il n'y a pas la capacité de leur traiter, de les isoler, de les aider. Donc, c'est des patients qui sont refusés et qui retournent dans leur communauté et continuent la transmission.
Vous savez, cette épidémie a démarré en Guinée, hein, mais vous dites que la Guinée est le pays qui connaît la situation la moins grave.
Ce qui est vrai, cette épidémie, c'est un peu comme un feu qui a des cendres qui peuvent réaviver un deuxième feu. Et en plus, l'épidémie bouge d'une manière qui est non linéaire et peut croiser une frontière et revenir. C'est-à-dire que tant que les trois pays n'ont pas contrôlé de manière simultanée l'épidémie, elle n'est pas résolue.
Ce que le grand public ne comprend pas, c'est qu'un grand nombre d'agents de santé a péri dans cette épidémie, alors que c'est un groupe très averti. Comment vous expliquez cela?
Donc, on se trouve ici, dans les trois pays, peut-être au monde, qui ont parmi les plus basses d'investissement dans le secteur santé par rapport au budget national, et un des plus basses et faibles ratios de personnel de santé par rapport à la population. Donc, c'est déjà un système de santé qui n'est pas très bien fourni, avec très peu de personnel. Si en plus de ça, on voit que cette épidémie n'existait pas avant en Afrique de l'Ouest et qu'ils n'avaient pas donc une préparation ou une expectative. Et si on sait que le système de santé est mal fourni, aussi bien en capacitation qu'en matériel de protection personnelle, ce n'est pas étonnant d'avoir un haut taux d'attaque parmi les staffs santé qui étaient déjà pas trop nombreux.
On dit qu'il faudra au moins 6 mois pour maîtriser cette épidémie. C'est votre avis?
C'est mon avis.
Vous avez fait cette tournée. Dans quel secteur ces pays ont besoin de plus d'aide?
L'élément le plus important maintenant, c'est les traitements et l'isolation des patients. Parce que si on n'a pas un endroit où aider les patients, ça n'a pas de sens de faire des laboratoires ou de faire des suivis de contacts si on ne peut pas offrir aux gens qui sont malades certains soins et en même temps la possibilité de les retirer de leur communauté pour que la transmission au niveau de leur foyer, vers leur famille, vers leurs voisins ne s'efface plus. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est des volontaires qui viennent des pays qui écoutent cette émission maintenant, qui sont prêts à aider avec les contrôles de l'infection et l'épidémiologie d'intervention. Des gens qui ont des diplômes et qui ont envie de faire quelque chose pour contrôler cette situation, pour qu'ils ne sortent pas au-delà de nos mains et qu'ils aillent pire que la situation actuelle qui est déjà pas bonne.
Voilà, c'était Jorge Castilla, coordinateur médical de la Commission d'aide humanitaire de l'Union européenne.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, comment en finir avec l'État islamique, le groupe terroriste le plus dangereux et le mieux financé sur la planète? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
À Allez, en Centrafrique, les candidats du bac devront encore attendre. La date donc de la composition de ce baccalauréat a été reportée. C'est la ministre de l'Éducation nationale qui l'a décidé. Les explications avec le directeur des examens et concours, Mahmat Yacoub.
Les épreuves du baccalauréat 2014 n'auront pas lieu ce 1er septembre comme initialement prévu. La ministre de l'Éducation nationale, Gisèle Bédan, vient de décider d'un report. Le directeur des examens et concours, M. Mahmat Yacoub, explique.
Le déroulement des épreuves du bac était initialement prévu le 1er septembre pour le bac technique et le 2 septembre pour le baccalauréat général. Toutes les dispositions étaient prises pour cette date. Malheureusement, je suis au regret d'annoncer que la sagesse a guidé Mme la ministre de l'Éducation nationale pour prendre une décision dans le sens du report du baccalauréat pour des raisons simplement techniques.
Sur 9435 candidats, un seul musulman. Les raisons.
Vous n'êtes pas sans savoir que tous les musulmans sont en insécurité. Je ne peux pas dire pourquoi. C'est la raison d'insécurité. Tous les petits musulmans ne sont plus dans la vie pour s'inscrire comme candidats. Mais ceux qui ne sont pas partis du pays, à eux seuls de dire pourquoi ils ne se sont pas inscrits.
Quant à Lucille Baou, cette situation, les cœurs.
Moi, je suis Lucille Baou. Par rapport à l'examen qu'on a remporté au Carrefour, moi, je suis pas à l'aise parce que nous sommes bien préparés. Lorsqu'on a entendu qu'on a remporté ça, carrément, on est dessus. On ne sait pas comment on va faire.
Elle regrette amèrement l'absence de ses condisciples musulmans.
Moi, ça me rend très triste parce que c'est pas normal. On a commencé ensemble, on voulait terminer ensemble, mais on a même pas terminé ensemble. Là, ça gêne beaucoup.
Bangui Thierry Bamba, La Voix de l'Amérique.
Voilà, c'était plutôt un reportage de notre correspondant à Bangui, Thierry Mbomba.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
L'Inde vient d'initier un ambitieux projet national, donner un compte bancaire à chaque ménage du pays. Baptisé Projet pour la richesse du peuple, il vise, selon les autorités, à intégrer des millions d'Indiens pauvres dans l'économie moderne et à les soustraire à l'emprise des prêteurs d'argent. Les précisions de Timothée de Nangmaï.
Quelques heures avant le lancement officiel de l'opération à New Delhi par le Premier ministre Narendra Modi, les banques avaient déjà enregistré environ 15 millions de nouveaux titulaires de comptes à travers le pays.
Desh ke 40% log jo bharat ki arthavyavastha ke haqdar nahi ban pate.
Comment l'Inde peut-elle réussir dans sa lutte contre la pauvreté si 40% du pays reste occupé de services bancaires? C'est demandé le Premier ministre Modi, ajoutant « Le pays doit obtenir sa liberté vis-à-vis de l'intouchabilité financière en intégrant tous les Indiens dans le système économique. » Sous le nouveau programme, chaque nouveau titulaire de compte reçoit une carte de débit, une assurance accident allant jusqu'à 1 600 $ et une protection contre les découverts bancaires d'environ 80 $. D'ici janvier, les dirigeants indiens entendent intégrer dans les services financiers 70 millions de ménages dépourvus de comptes bancaires. Aucun doute que cela transformera les vies de nombreuses personnes, a assuré le ministre indien du Commerce, Nirmala Sitharaman.
I'm sure that the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana will touch the lives of everyone.
Je suis sûr que le projet pour la richesse du peuple du Premier ministre va toucher la vie de tout un chacun d'une manière constructive et globale. Plusieurs obstacles entravent l'accès de nombreux Indiens au système bancaire. Beaucoup sont incapables de payer le minimum de 16 $ de dépôt qu'exigent la plupart des banques ou n'ont pas de papier d'identité. Pour compliquer les choses, de vastes portions du monde rural indien ne sont pas couvertes par les services bancaires, des problèmes que les banques indiennes se sont engagées à résoudre. Les économistes estiment que l'inclusion financière fera en sorte que l'épargne des ménages entre dans le système financier formel. Le projet pourrait également permettre de verser les allocations familiales et les subventions directement dans les comptes bancaires des bénéficiaires. Plus important encore, cela pourrait réduire la dépendance des ménages pauvres vis-à-vis des prêteurs qui offrent des prêts à des taux d'intérêt exorbitants.
Oh, 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 oh,
Allez, on passe au sport avec Bagassi-Coura. En football, match retour des playoffs de la Ligue Europa.
Oui, FK Krasnodar a écrasé la Real Sociedad 3-0. Les Français de Lyon ont battu Astra Girgu 1-0, mais ce n'est pas suffisant pour passer à l'étape suivante pour les Français. Torino va affronter RNK Split. Saint-Étienne joue en ce moment contre Carabou Sport. 1-0 pour l'instant pour Saint-Étienne. L'Inter Milan affrontera Stjarnan Gardaber et Hull City affronte en ce moment Lokeren. 1-0 pour Hull City. Borussia Mönchengladbach affronte le FC Sarajevo et Villarreal joue contre FC Astana. Tottenham affronte l'AEL Limassol.
Éliminatoire de la CAN 2015, le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, a convoqué 26 joueurs.
Oui, les éléphants doivent affronter la Sierra Leone et le Cameroun. La première liste d'Hervé Renard, donc, des éléphants devront apprendre à se passer des anciens Kolo Touré et Didier Zokora, non retenus par le nouveau boss. Si le premier avait fait part de son désir de prendre du recul avec la sélection, le second avait réservé sa réponse place dans le secteur défensif à Lamine Koné de l'Orient de la Ligue 1 française et aux locaux Franck Kessi et Ousmane Ouattara.
Au Burkina Faso aussi, on connaît les 26 de Paul Put.
Oui, le sélectionneur belge Paul Put a donc publié sa liste des joueurs convoqués pour affronter les Lesotho le 6 septembre et l'Angola le 10 septembre 2014. Parmi les joueurs convoqués, on note le retour du capitaine Moumouni Dagano. Il y a aussi de nouveaux joueurs comme Abdoul Meiker Yabré de Cesena, Yves Benoît Bacciono de Parme en Italie, Mohamed Bayilou du Racing Club de Bobo Dioulasso. Le défenseur Robert Sankara de Free State en Afrique du Sud fait également son retour. L'international Anthony Koura de Nîmes en France, lui, ne figure pas sur la liste des joueurs convoqués. Convoité par plusieurs clubs, dont le Standard de Liège, on apprend qu'il restera finalement à France, à Nîmes, en division 2 française.
Mon amour, Mbambo, porte-moi sur tes épaules. Emmène-moi là où tu iras. Ton chemin sera le mien.
Mayafa, bien à moi, Yafa Nema, bien au baquet comme Minkela. La femme
Allez, un peu de douceur avant de se quitter. On écoute Berce-moi du Guinéen Sekouba Bambino.
Aliba Villa Kiladini, Anamoma, Nima de Susuma.
Voilà, c'est donc avec Sekouba Bambino que s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïman a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction donc, de La Voix de l'Amérique, au micro Bagassi Koura.
Et Morgan Diriek.
Voilà, on se retrouve dans une demi-heure.
Kafuru kenyu.